Radio France Internationale, il est 4h30 en temps universel, 6h30 à Paris. Toute l'actualité africaine avec Martin Guèze. Bonjour Martin.
Bonjour Marion Cazeneuve, bonjour à toutes et à tous.
À la une, Léon l'Africain.
Le pape Léon XIV qui a sillonné le continent lorsqu'il était cardinal. Dernière visite en date au Kenya en décembre dernier. Il s'était aussi rendu en République démocratique du Congo et en Tanzanie. Sur la lancée de son prédécesseur, le nouveau souverain pontife devrait lui aussi faire de la lutte contre la pauvreté et des migrations ses principaux chevaux de bataille. Le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme, l'agence onusienne, qui s'inquiète particulièrement pour l'Afrique de l'Ouest et centrale et craint une aggravation sévère de la faim. Plus de 50 millions de personnes pourraient ne pas manger à leur faim dans ces zones cet été, en cause les coupes budgétaires de l'administration Donald Trump. Le président de l'Assemblée nationale congolaise est en Ouganda, Vital Kamerhe, en visite à Kampala. La diplomatie parlementaire de Kinshasa à l'œuvre, alors que les relations entre les deux pays connaissent de nombreuses contrariétés. Enfin au Burundi, lancement en grande pompe hier à Gitega de la campagne électorale pour les élections législatives et communales du 5 juin. Lancement boudé par une partie de l'opposition. Et puis dans une dizaine de minutes, Antoine Grenier sera avec nous pour le journal des sports. Nous reviendrons sur le tirage au sort de l'Afrobasket qui a eu lieu hier à Luanda en Angola. Une première messe en chaussures noires, c'est peut-être un détail, mais Léon XIV a dérogé à la tradition et aux chaussures rouges de rigueur pour suivre les pas de son prédécesseur François, prédécesseur qui a fait des pays du Sud et notamment du continent africain sa priorité. Retirez vos mains de l'Afrique et de la RDC, avait-il notamment dit, avait dit le souverain pontife lors de sa venue à Kinshasa début 2023. Alors qu'en sera-t-il pour Léon XIV? Quel lien entretient-il avec le continent africain? Correspondance au Vatican d'Éric Sénanc.
Le continent africain est loin d'être une terre inconnue pour le nouveau pape Léon XIV. Quand il occupait le rôle stratégique de préfet du dicastère pour les évêques au Vatican, le cardinal Prévost a effectué plusieurs visites dans des pays d'Afrique, la dernière au Kenya en décembre 2024, où il avait présidé la dédicace d'une chapelle non loin de Nairobi. Mais c'est surtout lorsqu'il était le prieur général de l'ordre de Saint-Augustin que ce missionnaire reconnu a multiplié les déplacements sur le continent, comme en République démocratique du Congo ou encore en Tanzanie. Sa filiation spirituelle avec l'ancien évêque d'Hippone, devenu père de l'Église, place aussi le nouveau chef de l'Église catholique en lien direct avec l'Afrique. Les prochains dossiers du nouveau souverain pontife, comme la lutte contre la pauvreté ou encore la crise migratoire, devraient aussi le rapprocher du continent dans la dynamique lancée par le pontificat de François. Ses premiers mots jeudi, appelant à la paix depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, ne sont pas passés inaperçus dans plusieurs pays déchirés par les conflits. Une joie d'entendre les premières paroles du pape, un message qui devrait nous réconforter, a salué ainsi le secrétaire général de la CENCO, l'abbé Donatien Ncholé. Léon XIV souhaite une église attentive à tous ceux qui souffrent, a-t-il expliqué. Une promesse pour l'avenir, en attendant un premier voyage apostolique dans un pays d'Afrique. Éric Sénanc, Rome, RFI.
Léon XIV qui s'était donc rendu à plusieurs reprises en RDC et pas seulement à Kinshasa. Robert Francis Prévost s'était aussi rendu dans le Bas et le Haut-Wélé dans la paroisse de Dungu, à plus de 2000 km de la capitale. Un voyage en toute simplicité que nous racontent plusieurs témoins qu'a pu joindre Amélie Tulé. Témoignage à lire sur notre site internet www.rfi.fr. Léon XIV et ses liens avec l'Afrique, on en reparle dans un quart d'heure avec notre invité, l'universitaire béninois Florentin Dangbé, qui répondra aux questions de Laurent Corot. Les enjeux de pauvreté également au cœur des préoccupations du nouveau pape, alors que l'ONU s'alarme ce matin à propos de l'aggravation de la faim en Afrique de l'Ouest et centrale, où les besoins atteignent des niveaux records selon le Programme alimentaire mondial. Le PAM qui tire la sonnette d'alarme, plus de 36 millions de personnes ne mangent pas à leur faim, chiffre qui pourrait dépasser les 50 millions pendant la période dite de soudure du mois de juin au mois d'août. Le PAM indique avoir un trou de plus de 700 millions de dollars dans son budget pour venir en aide à ces populations vulnérables dans un contexte global de baisse des aides américaines depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Jones Demadjiangar est porte-parole du Programme alimentaire mondial en Afrique de l'Ouest et centrale. Pour lui, il y a urgence.
Les projections indiquent que la période de juin à août, qu'on appelle communément la période de soudure où la faim atteint vraiment le niveau le plus élevé, il y aura à peu près plus de 52 millions de personnes qui seront dans cette situation-là. Et parmi elles, près de 3 millions atteindront un niveau un peu plus sévère. C'est une aggravation. Si l'on compare, par exemple, à l'année 2019, il n'y a que 4% de la population qui était dans cette situation d'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous avons 12% de la population. Et ça, c'est une situation qui affecte particulièrement la couche des populations forcées au déplacement à cause des conflits. Elles n'ont pas accès à leurs moyens de subsistance et ne dépendent que de l'assistance du Programme alimentaire mondial. À un moment où nous faisons face à des sérieux problèmes de financement qui font qu'on n'est pas malheureusement en mesure de répondre adéquatement à leurs besoins comme il se doit.
Des propos recueillis par Wely Diallo. En RDC aussi, le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU s'alarme. L'OCHA annonce une réduction de près de la moitié de ses objectifs d'aide dans le pays. Là encore, à cause de la suspension de l'aide américaine. Dans ce contexte, le milliardaire Bill Gates, fondateur de Microsoft, prend le contre-pied de Donald Trump et il a annoncé donner la quasi-totalité de sa fortune à sa fondation qui lutte contre la pauvreté dans le monde. Pied de nez à Donald Trump, mais aussi à Elon Musk, Anne Verdaguer.
Bill Gates donne une interview bilan dans les colonnes du New York Times. Sa fondation a 25 ans et elle s'éteindra dans 20 ans, annonce-t-il. La Gates Foundation a donné 100 milliards de dollars à travers le monde pour financer des grandes institutions comme l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi lutter contre des maladies infectieuses et accélérer la vaccination dans de nombreux pays à destination principalement d'enfants atteints de maladies mortelles. Des millions de vies ont été sauvées, estime le philanthrope américain qui fustige la nouvelle administration Trump, en particulier Elon Musk, qui selon lui est impliqué dans la mort des enfants les plus pauvres de cette planète avec les réductions drastiques du programme USAID. Bill Gates ne mâche pas ses mots et s'engage à dépenser via sa fondation plus de 200 milliards de dollars d'ici 2045 avec trois priorités, la lutte contre la mortalité infantile, les maladies comme la polio ou la malaria, mais aussi l'éducation. Les gens diront beaucoup de choses à mon décès, dit-il pour conclure, mais je suis résolu à ce qu'il est mort riche ne soit pas l'une d'entre elles.
Explication signée Anne Verdaguer du Service économie de RFI. Au Tchad, 5 ans de prison et une amende d'1 million de francs CFA pour Idriss Youssouf Boy, mais aussi pour son accusateur, l'homme d'affaires Aboutakim Bouder. Idriss Youssouf Boy, ancien bras droit du président Mahamat Idriss Déby, condamné pour corruption passive. Ses avocats ont annoncé faire appel et selon la chaîne tchadienne Manara TV, les avocats du plaignant Aboutakim Bouder ont aussi fait appel de cette condamnation. Vital Kamerhe en visite à Kampala, le président de l'Assemblée nationale congolaise qui s'est rendu en Ouganda avec une délégation de députés. Objectif de ce déplacement de 2 jours, renforcer la diplomatie parlementaire entre les deux pays. Dans un contexte de méfiance du côté de Kinshasa, la coopération militaire entre les deux pays comprend certaines zones d'ombre. Explication, Patient Ligodi.
La visite de Vital Kamerhe en Ouganda s'inscrit dans un cadre institutionnel entre l'Assemblée nationale de la RDC et le Parlement ougandais. À Kinshasa, on parle de diplomatie parlementaire, l'idée de construire une relation de confiance, d'anticiper les malentendus et de dissiper les suspicions. Il faut dire que malgré une coopération militaire active entre Kinshasa et Kampala, la méfiance demeure. Les autorités congolaises s'inquiètent du passage régulier sur le sol ougandais de certains opposants. Le cas le plus évoqué ces dernières semaines reste celui de Thomas Lubanga, ancien détenu de la Cour pénale internationale qui a annoncé en mars dernier la création d'un mouvement politico-militaire contre le pouvoir en place à Kinshasa. L'objectif affiché par ces missions, mettre en place un groupe bilatéral d'amitié entre les deux parlements. Ce mécanisme permettrait d'évaluer régulièrement des projets d'intégration économique, mais aussi les efforts communs en matière de sécurité transfrontalière. Il y a 5 mois, une première délégation des 10 députés congolais, conduite par Lambert Mende Malanga, avait été reçue par le président ougandais Yoweri Museveni.
Explication signée Patient Ligodi, direction le Burundi qui s'apprête à organiser des élections communes, scrutin législatif et communal à venir le 5 juin prochain. Campagne lancée hier à Giteka, dans le centre du pays. Un lancement officiel en forme de levée de rideau. La campagne débutera réellement mardi et se prolongera jusqu'au 2 juin. Le but est d'afficher un pays apaisé, de montrer une démocratie où les partis politiques, ceux du pouvoir comme de l'opposition, vivent en bonne intelligence. Mais derrière l'union de façade, une partie de l'opposition a préféré ne pas participer à cette grande cérémonie hier à Giteka. Estras Dikoumène.
Drapeaux de tous les partis politiques déployés dans les rues de la capitale Gitega, des milliers de candidats aux élections du 5 juin qui défilent en uniforme de leur parti, discours notamment du chef du CNDD-FDD au pouvoir suivi de celui d'un représentant de l'opposition. Pour le président Évariste Ndayishimiye, c'est assurément le signe que la démocratie s'est enracinée au Burundi.
Nous vivons aujourd'hui un jour historique. C'est aussi le signe extraordinaire du pas franchi en matière de démocratie, parce que nous sommes en train de lancer, tous ensemble et dans l'unité, la campagne électorale pour les prochaines élections.
Mais ce ne sont pas tous les partis politiques burundais qui ont accepté de jouer le jeu. ce qui se considère comme les véritables opposants, comme la coalition Burundi Bravo OC, un Burundais pour tous en français, ou encore le parti CDP d'Anicet Niyonkuru, ont boycotté l'événement, comme ce dernier l'explique.
Nous sommes sur terrain dans tout le pays. Nous vivons des problèmes à chaque fois que nous avons des descentes. C'est rarement qu'on nous laisse libre. La concurrence politique n'est pas libre. Les Burundais sont malheureux, ils ont un problème de survie. Tout est calme, effectivement, mais c'est un calme de cimetière. Ce n'est pas un calme de bonheur. Cette démocratie que l'on chante, je ne vois pas où elle se trouve.
Autre grand absent hier à Gitega, Agathon Rwasa, le leader historique de l'opposition, empêché de se présenter aux législatives par une série de manœuvres et de dispositions électorales du pouvoir, selon ses proches.
Esdras Dikoumana, en Centrafrique. Deuxième nuit derrière les barreaux pour le journaliste Landré Ulrich Gema, Ngok Pelé, directeur de publication du quotidien de Bangui. Il a été arrêté jeudi après-midi par la gendarmerie pour des motifs encore flous. La presse locale dénonce une arrestation arbitraire à motif politique et déplore l'absence d'explication du parquet sur les raisons de cette interpellation. Eux, en revanche, sont sortis de prison. Trois journalistes de la radio Sahara FM ont été relâchés ce vendredi, qui avaient été interpellés par la police dans la nuit de mercredi à jeudi à Agadez. Avant d'être placés en garde à vue au commissariat, les journalistes avaient relayé une information publiée par LSI Africa concernant des contrats entre le Niger, la Russie et la Turquie. Contrats qui auraient été rompus, selon le site RFI. 6h41, ici à Paris. L'info continue.
Afrique Matin sur RFI. Martin Guez.
Et à suivre dans le prochain quart d'heure, la Nollywood Week à Paris. Ça se passe au cinéma de l'Arlequin et ça se termine demain. Une édition dont la marraine est autre que l'actrice Aïssa Maïga, Nollywood en plein essor et enfin reconnu, un film nigérian a enfin été sélectionné au Festival de Cannes cette année. Nous reparlerons du pape Léon XIV, ensuite avec notre invité, l'universitaire béninois Florentin Angbé. Il nous parlera de l'inculturation, une démarche qui consiste à faire dialoguer le rituel catholique avec les cultures locales. Il est ce matin l'invité de Laurent Corot. Un pape américain qui n'est pas Donald Trump. Attention à cette image générée par l'intelligence artificielle et relayée par le président américain lui-même. On en parle dans quelques minutes avec Amaury de Rochegonde pour notre chronique média. Mais tout de suite, on s'échauffe. Antoine Grenier est déjà chaud pour le Journal des Sports. Et vous voilà Antoine, bonjour. Antoine,
bonjour Martin.
En football, le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, troisième participation en vue pour l'Algérie.
Les Verts à prime profitent de la toute dernière fenêtre d'éliminatoire pour valider leur billet. Succès au match retour à Annaba 3-0 sur la Gambie avec au passage un doublé de l'attaquant de Paradou, Adil Boulbina. Après 2011 et 2022, les joueurs de Majid Bouguera verront donc un troisième CHAN cet été dans le groupe de l'Ouganda, du Niger et de la Guinée. Une place reste d'ailleurs à attribuer pour ce CHAN. Elle se jouera demain entre l'Afrique du Sud et le Malawi.
Des Algériens qui étaient finalistes de la dernière édition à domicile. Et puis chez les jeunes, la CAN U20 et les affiches des quarts de finale désormais complètes.
Avec la qualification de l'Afrique du Sud grâce à son match nul un partout contre la Zambie, les Sud-Africains opposés à la RDC en quart lundi. Ça passe également pour l'Égypte, vainqueur de la Tanzanie 1-0 et qui affrontera le Ghana en quart de finale. Déjà qualifié avant cette dernière journée de phase de groupe, la Sierra Leone se mesurera au Maroc.
Antoine Grenier sur la ligne des lancers francs ce matin en basket. 4 groupes, 12 nations. Le tirage au sort de l'Afrobasket 2025 qui a été effectué hier à Luanda en Angola.
La capitale angolaise qui accueillera le championnat d'Afrique du 12 au 24 août. Les tenants du titre tunisien croiseront dans un groupe relevé Madagascar, le Nigeria et le Cameroun. Les finalistes ivoiriens seront eux opposés au Cap-Vert, au Rwanda et à une RDC ambitieuse, prévient le sélectionneur des Léopards. Piero Ilunga.
On va travailler en fonction de ces équipes que nous connaissons. Nous connaissons déjà leur philosophie et je pense que nous aurons aussi à faire une sélection en fonction de la philosophie de chaque adversaire et savoir comment est-ce qu'on va les affronter et chercher à passer d'abord cette première phase et voir la deuxième phase. Et
pour quel objectif cette RDC viendra en cette compétition?
Normalement, vous voyez déjà le profil de la RDC. Vous avez vu pendant les phases éliminatoires qu'est-ce que la RDC donne comme image en compétition. Donc nous visons le titre. Nous sommes ici, nous allons nous préparer sérieusement pour viser vraiment le titre. Nous ne venons pas en touriste, mais nous venons en compétiteur qui vise le titre.
Piero Ilunga avec Jean Timba. Dans le groupe C, l'Angola, le Soudan du Sud, la Guinée et la Libye s'affronteront. Enfin, le dernier groupe sera composé du Sénégal, du Mali, de l'Égypte et de l'Ouganda.
Enfin, Antoine, on termine avec la boxe. On en parlait hier matin dans Afrique Matin, Souleymane Sissoko, qui dispute le combat le plus important de sa carrière.
À 33 ans, le franco-sénégalais affronte le lituanien Ekidijus Kavalioskas, une demi-finale mondiale chez les moins de 67 kilos. Invaincu en 17 combats professionnels, Souleymane Sissoko sait que son adversaire a tout pour lui poser problème.
J'ai un très bon adversaire qui a de l'expérience. Il a fait deux fois les Jeux Olympiques. Il a déjà fait un championnat du monde. Il a plus de combats pro que moi. C'est un boxeur des pays de l'Est, hein, qui est lituanien, qui avance, qui est très fort physiquement et qui frappe très fort. Donc voilà, c'est un boxeur qui est complet, qui a perdu ses deux défaites. C'est contre les meilleurs mondiaux. Un contre Terence Crawford, qui est toujours invaincu, et contre Virgil Ortiz, qui est toujours invaincu. Donc il ne perd pas contre n'importe qui. Il a gagné aussi face à énormément de bons boxeurs.
Souleymane Sissoko avec Sofiane Amazian. Début du combat, pas avant 20h, temps universel.
Merci Antoine Grenier, on vous retrouve dans une heure pour le prochain journal des sports. Samedi 10 mai 2025 sur RFI, c'est un cran de plus dans la confrontation militaire et dans l'extrême tension entre l'Inde et le Pakistan. L'Inde a bombardé des bases aériennes pakistanaises tôt ce matin. Trois bases, dont l'une près de la capitale, Islamabad, ont été visées. Le Pakistan qui annonce être en train de répondre. L'Inde qui confirme plusieurs attaques de drones le long de la frontière commune. L'autorité pakistanaise du commandement national, l'administration chargée notamment du déploiement de l'arsenal nucléaire du pays, est convoquée. Les pays du G7 appellent à une désescalade immédiate. Les États-Unis proposent leur médiation. Nous serons en direct de New Delhi dans le prochain journal. Des dirigeants européens à Kiev aujourd'hui, le français Emmanuel Macron, le britannique Keir Starmer, l'allemand Friedrich Merz et le polonais Donald Tusk y sont attendus. Ils doivent tenir une réunion avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ils devraient notamment évoquer la dernière proposition américano-européenne de cesser le feu, arrêt des combats inconditionnels et d'une durée de 30 jours. Et puis le meurtrier d'Aboubacar Cissé, transféré en France. La justice italienne l'a remis à son homologue française hier. Il a été mis en examen et écroué dans la foulée. Olivier Adzovic, qui est âgé de 20 ans, est accusé d'avoir tué le jeune Malien il y a 2 semaines dans une mosquée du sud de la France. Le suspect s'était enfui en Italie avant de se rendre de lui-même à la police. Il est poursuivi pour assassinat à raison de la race ou de la religion. Aboubacar Cissé, lui, a été enterré dans son village natal, dans la région de Kaye, dans l'ouest du Mali, ce jeudi. Une première historique pour le cinéma nigérian. Pour la toute première fois, un film du pays a été choisi en sélection officielle à Cannes, à savoir My Father's Shadow. Une reconnaissance pour le pays, alors que Nollywood, l'industrie prolifique du cinéma du Nigeria, s'affirme de plus en plus comme un poids lourd du 7e art. Et cette semaine se tient la Nollywood Week à Paris. Le public de ce cinéma populaire est en constante croissance à travers le monde. Un cinéma qui compte de nombreuses actrices, productrices, réalisatrices. Et c'est tout sauf un hasard si c'est Aïssa Maïga qui a été choisie comme marraine de l'édition. Elle qui fait de la place des femmes sa priorité, au même titre que la lutte contre la corruption. Ouda Ibrahim.
Le travail de la police, ce n'est pas ça, mais il y a de la mauvaise graine dans toutes les professions, répond un chef policier à son subordonné dans le film « La nuit du 7 juin » du réalisateur Tokamak Baror, qui traite de la corruption au sein de la police nigériane en se basant sur une histoire vraie. Autre film pour Amina, qui en plus de montrer une femme extraordinaire, s'attaque à la corruption en milieu éducatif. Bikia Graham Douglas, productrice et actrice qui tient le rôle principal.
It's about accountability.
Le film pour Amina parle de la responsabilité. Nous y voyons une mère qui lutte contre un système corrompu pour que sa fille ait accès à l'éducation comme il se doit. Il s'agit d'une femme presque illettrée et qui n'a pas de pouvoir. Mais elle utilise le pouvoir des médias pour avoir des réponses du gouvernement. Et donc cette histoire raconte comment nous devrions faire pour responsabiliser les autorités afin de s'assurer que nous construisions une société meilleure. Tout cela se fait à travers le prisme d'une relation mère-fille pour que cette fille ait une bonne éducation.
Nollywood Week montre également des sujets plus complexes, comme dans le film Out in the Darkness de Sara Kwaji, réalisatrice et scénariste.
Au Nigeria et dans le reste du monde, la santé mentale des femmes, en particulier les problèmes comme la dépression postpartum, a été négligée et rejetée. Elle est largement incomprise. J'ai donc décidé de donner de la visibilité à ce sujet pour combler ce vide narratif qui a désespérément besoin de plus de sensibilité et de compassion.
Avec la nouvelle génération, le cinéma de Nollywood connaît des transformations profondes. Tierno Ibrahim Adia, critique de cinéma.
Ce cinéma a été très dans les genres fantastiques, horreur, et maintenant elle tend à revenir vers une analyse de la société et par le cinéma interroger les rapports qui existent dans cette société. Et donc ce cinéma-là travaille à traduire les réalités. C'est un retour vers plus d'ancrage et moins de cette tendance très Nollywood qu'on connaissait au début.
Nollywood, cette industrie très jeune, est aujourd'hui touchée par la crise économique que traverse le Nigeria.
Un reportage Afrique signé Ouda Ibrahim, la Nollywood Week qui se termine demain à Paris. Ça se passe au cinéma L'Arlequin, dans le cœur de la capitale française. Léon XIV prend ses fonctions, première messe, première homélie, hier, en anglais et en italien. Il a déploré le recul de la foi au profit d'autres certitudes comme la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir, le plaisir. Une foi très vivante dans les pays du Sud, le nouveau pape y porte un regard attentif et il va s'attaquer au dossier de l'inculturation. Son prédécesseur François y était très, très attaché. L'inculturation, c'est cette démarche qui consiste à faire dialoguer le rituel catholique avec les cultures locales. Les attentes sont très fortes à ce sujet sur le continent africain. Sujet que maîtrise forcément Florentin Nangbé, intellectuel, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, spécialiste de l'inculturation au Bénin. Il est ce matin l'invité de Laurent Corot.
Bonjour Florentin Nangbé.
Bonjour.
À quel point les fidèles de votre pays, le Bénin, ressentent-ils le besoin d'un plus grand dialogue entre le rite catholique et les traditions ?
L'avenir de l'Église dépendra de la profondeur de l'inculturation. L'inculturation, c'est un processus qui vise à intégrer le christianisme dans une culture tout en respectant et en enrichissant cette dernière pour créer une expression unique et vivante de la foi. Pour l'avenir de l'Église, les fidèles catholiques doivent œuvrer à travers la communauté et la transmission pour éduquer véritablement les enfants, les générations futures, pour que leur foi s'approfondisse véritablement sur la transmission des cultures. C'est fondamental. Sans ça, les autres cultures vont prendre le pas sur nous.
Votre pays, le Bénin, est un pays qui a déjà beaucoup cheminé dans cette réflexion sur l'inculturation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Florentin Nangbé, quelle a été l'expérience du Bénin dans ces questions d'inculturation, notamment avec le mouvement du Sillon Noir dans les années 70?
Si vous participez à une célébration eucharistique au Bénin, vous allez constater réellement qu'il y a une dimension culturelle béninoise dans la célébration. C'est en 1970 que nous avons commencé l'expérience de l'inculturation de la foi chrétienne en Afrique, et notamment au Bénin. Un mouvement initié et mis en place par Monseigneur Adoukounou Barthélémy. Et ce que nous avons pu faire jusque-là, premièrement, c'est l'intégration des rites et symboles locaux. Et je peux vous donner deux exemples. Les funérailles chrétiennes inculturées et la procession théâtraliser des offrandes. Quand il y a un décès, vous allez voir la manière dont le chrétien catholique décédé est enterré. Et il y a aussi l'utilisation des langues locales et de la musique traditionnelle. Donc les chants liturgiques, les lectures et parfois même les homélies sont proposées dans différentes langues béninoises pour montrer la profondeur de l'évangile, parce que la compréhension est plus totale. Ce qui renforce le sentiment d'appartenance et la vitalité de la communauté. En outre, prochain, il y aura un colloque pour faire le point de tout ce que nous avons fait jusque-là pour pouvoir atteindre les objectifs escomptés.
Alors, quel bilan justement faites-vous de l'action du précédent pape, le pape François, sur ces questions de dialogue entre foi catholique et culture locale? On se souvient que François était très engagé en faveur de l'inculturation et avait mis en valeur le rite zaïrois en le présentant comme un modèle d'inculturation pour l'ensemble de l'Église universelle.
Le pape François, il considère qu'une foi pas inculturée n'est pas authentique. Vous voyez son engagement? Donc, il est allé très loin, très loin. Et les Africains sont très fiers de ce pape.
Qu'attendez-vous justement du nouveau pape, Léon XIV, sur ces questions d'inculturation?
Mais ce que nous attendons de lui, dès lors qu'il était très proche de pape François, nous sommes dans une logique de continuité. Il doit approfondir et consolider les acquis de pape François et évoluer dans sa dynamique avec une certaine ouverture par rapport aux Africains et venir régulièrement en Afrique pour pouvoir mobiliser les laïcs autour de ces idéaux.
Florentin Nangbé, pensez-vous qu'il soit utile ou nécessaire que le Vatican réunisse un jour un synode africain, comme il y a eu un synode d'Amazonie, afin notamment d'aborder ces questions d'inculturation?
Ah, c'est mon souhait. C'est important qu'il y ait ce synode, faire le point, le niveau de mise en œuvre de l'inculturation en Afrique, relever les défis, c'est important.
Monseigneur Adou Konou, l'un des pionniers de la réflexion sur l'inculturation au Bénin, estimait nécessaire de suivre l'appel lancé aux Africains par le pape Paul VI à Kampala en Ouganda le 31 juillet 69. Vous pouvez et vous devez avoir un christianisme africain. Ce sont les mots qui avaient été prononcés par Paul VI. Est-ce que c'est un appel qui est toujours d'actualité selon vous?
Bien sûr, tout en étant dans la hiérarchie de l'Église catholique. Il faut qu'il y ait une certaine autonomisation et pour qu'on soit plus à l'aise par rapport à ce qui se passe.
Le premier rite africain approuvé par le Vatican en 1988, c'est le rite zaïrois. Est-ce qu'il faut, selon vous, aller vers une plus large reconnaissance de rites enracinés dans la culture des fidèles?
C'est bien sûr, ce serait utile. La culture est au pluriel. Culture zaïroise, ce n'est pas la culture béninoise. Au Bénin, nous parlons de vaudou et fortement.
D'où la nécessité de reconnaître des rites justement très divers.
Exactement. Il faut analyser chaque culture à la lumière de l'Évangile et prendre ce qui est bon dans cette culture pour rendre grâce à Dieu et prendre ce qui est bon dans l'Église pour valoriser cette culture.
Florentin Nangbé, merci.
Florentin Nangbé, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, spécialiste de l'inculturation. Il répondait aux questions de Laurent Corot. Entretien à retrouver et à réécouter sur notre site internet www.rfi.fr. Et dans deux heures, dans RFI Matin, ce sera avec Julien Coquel-Rohem. Julien, que vous retrouvez dans quelques instants. Mais pour l'heure, place à la chronique média à présent et on continue de parler du pape. Un drôle de pape fictif est apparu sur les réseaux sociaux, un pape nommé Donald Trump. On en parle ce matin avec Amaury de Rochegonde. Bonjour Amaury.
Bonjour.
Amaury de Rochegonde, nous connaissons les faits alternatifs. Vous nous parlez aujourd'hui de l'espace d'information alternatif qui est en train de se bâtir à la Maison Blanche, qui est en train de bâtir le président américain Donald Trump.
Oui, il suffit de regarder la photo produite par l'IA de Donald Trump, habillé en pape, partagée sur son réseau social de tous, pour mesurer ce qu'a d'alternatif et d'égotique la communication du président. Ce que ne pouvait pas deviner Donald Trump, c'est qu'il y a bien un pape américain depuis jeudi, mais que c'est peut-être tout son contraire. Lorsqu'il était évêque ou cardinal, Robert Francis Prevost a partagé des publications critiquant le programme anti-migrant de Donald Trump ou les propos de son vice-président, le catholique J.D. Vance. Il appelait aussi à ne pas rendre l'idéologie maîtresse de sa vie au mépris du dialogue. Alors, pour ce qui est de l'image du pope Donald, il ne l'a pas commenté, mais la conférence catholique de l'État de New York l'a fait pour lui. Elle a trouvé que cette image n'avait rien de drôle ni d'intelligent et qu'il ne fallait pas se moquer des catholiques pratiquants qui sont d'ailleurs majoritairement conservateurs aux États-Unis.
Et Donald Trump qui a finalement réagi à son tour en plaidant l'humour.
C'est ça, les catholiques ont adoré et ce sont les médias menteurs qui n'ont pas le sens de l'humour, a-t-il affirmé. Il a aussi publié une image IA de lui en combattant Jedi de Star Wars avec un sabre laser rouge comme Dark Vador. Fin avril, il avait déjà accusé les médias américains d'être malades, je cite, et de mériter une enquête pour fraude électorale après des sondages défavorables dans le Washington Post, le New York Times, ABC News ou NBC. Des médias alors traités d'ennemis du peuple ou de criminels pessimistes. Les agences de presse comme l'AFP ou Reuters ont, elles, été exclues du bureau ovale, voire de la Maison Blanche comme AP. L'administration Trump a coupé leurs abonnements et propose à la place un système média parallèle avec des briefings réservés à des influenceurs ou des podcasteurs sympathisants.
Ce qui constitue une chambre d'écho plus vaste mais aussi plus partisane, Amaury.
Oui, c'est ce que l'universitaire américaine Sonia Gibson Rankin appelle un espace de réalité alternative avec son propre flux d'infos renvoyant vers les déclarations de Trump ou des articles en sa faveur. Parallèlement, la Maison-Blanche démantèle ou supprime les financements des médias publics, non seulement à l'étranger Voice of America ou Radio Free, mais désormais au plan national, la chaîne PBS et la radio NPR. Et face à cette paupérisation, cette marginalisation organisée de l'information, eh bien Donald Trump multiplie les messages, les tweets et les attaques. Il veut apparaître au centre de tout, comme l'éléphant dans la pièce, avec ou sans IA.
Merci beaucoup, Amaury de Rochegonde, et à la semaine prochaine. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci à Laurent Hérault, à la réalisation ce matin, Vincent Dublange, à la rédaction en chef. L'info africaine qui revient dans une demi-heure sur RFI. Et nous, on fait un petit coucou à Prince Maïcha qui nous suit et qui nous écoute depuis la RDC. Dans 30 secondes, vous avez rendez-vous avec Julien Coquelle-Rohem pour RFI Matin.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Elgas.
Les frontières africaines et leurs origines, vaste et sensible sujet que je vous propose d'explorer. Que signifie frontière dans les langues africaines? Et comment se les représente-t-on? La fameuse conférence de Berlin a-t-elle décidé des tracés actuels? Voyage au cœur des mythes tenaces pour établir la suprématie des faits.
Afrique, mémoire d'un continent, tous les dimanches à 8h10 TU, sur RFI.